marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Des prêtres et des scandales.
Devant l'ampleur du drame et le caractère inouï du crime, trop de pasteurs de l'Église ont, par leur silence, offensé l'Église elle-même et sa mission. Nous confessons cette faute et demandons au peuple juif d'entendre cette parole de repentance.
À deux reprises, l'Église catholique de France a effectué une démarche collective de repentance. Le mot utilisé il y a un instant, Monseigneur de Béranger, alors évêque de Saint-Denis la première fois, c'était donc à cette occasion, à Drancy, en 1997, pour l'antijudaïsme qu'elle avait longtemps manifesté publiquement. La seconde fois, plus récemment, pour le silence que les successeurs des évêques de l'occupation ont trop souvent observé dans les affaires de pédocriminalité touchant le clergé. Certains ont été froissés par cette attitude nouvelle. Les institutions ne sont-elles pas déjà assez attaquées? Ont-elles vraiment besoin de se déprécier elles-mêmes? Qui aime l'Église peut-il accepter de considérer son visage défiguré? À quoi Benoît XVI répondait « La plus grande persécution ne vient pas des ennemis de l'extérieur, mais du péché au sein de l'Église elle-même. » Et on lit ceci dans la première épître de Pierre, dans le Nouveau Testament, « Quand Dieu fait le ménage, il commence à le faire dans sa propre maison. » Le scandale, on le sait, est d'autant plus grand qu'il s'inscrit dans la mémoire de ses témoins. Les premières communautés chrétiennes insistaient déjà sur le trouble que ces témoins en ressentaient et qui pouvaient mener à une désaffection sourde, insidieuse. La réaction naturelle a donc pu être de diminuer le nombre des témoins. La justice que l'Église entretient dans son sein, la justice canonique, voulait évidemment régler les affaires dans le secret. En même temps, en matière de pédophilie, le code de droit canonique, dès 1917, était très ferme. Mais quand l'opinion s'est aperçue que le secret continuait, tandis que la sanction ne venait pas ou venait insuffisante, le scandale ne pouvait que redoubler. Et le nombre des témoins se multipliait, au point de provoquer dans l'Église une crise gravissime, certains disent même ultime.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Bonjour à vous, Anne Philibert.
Bonjour, Jean Lebrun.
Naguère, un livre déjà aux éditions du CERF sur un grand prédicateur du 19e siècle, La Cordère, et maintenant Des prêtres et des scandales. Alors, c'est un livre d'historienne. Vous êtes docteur en histoire en même temps qu'ancienne élève de l'ENA. Enfin, peu importe les titres, c'est aussi un livre de baptisé et qui tente d'élever ses enfants dans le christianisme. Vous avez rencontré plus de prêtres remarquables, vous, dans votre génération, que vos enfants peut-être ne risquent d'en rencontrer.
Oui, alors cela tient à un certain nombre d'éléments. D'une part parce que le nombre de prêtres lors de ma jeunesse était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Ensuite parce que ces prêtres étaient sans doute plus disponibles. Bon, ce qui s'explique par le premier point. Et puis, il y avait ce climat très optimiste des années 70, avec effectivement le souci du développement, par exemple en Afrique, ou alors toutes ces joies liées à l'esprit de Vatican II.
Dites-moi, qu'est-ce que c'est pour vous un prêtre idéal? Alors, vous me parlez de Vatican II, mais votre livre, il commence volontairement au Concile de Trente, c'est-à-dire celui qui, en réaction à la réforme protestante, installe une certaine séparation, le prêtre étant dans la sphère du sacré.
Alors, vous me posez deux questions. Donc, en fait, un prêtre idéal, dans un monde idéal, c'est un saint. Ensuite, quand le prêtre n'a pas cette évidence de la sainteté, c'est un homme, bien évidemment, un saint d'ailleurs c'est un homme qui est faillible comme nous, mais qui est quand même un exemple, parce que c'est quelqu'un qui a décidé de donner sa vie aux autres. C'est ça le signe.
Et la deuxième question, je ne vous la rappelle pas, parce que vous
avez
noté.
Alors la deuxième question, c'est effectivement
le Concile de Trente.
Oui, alors le Concile de Trente, c'est très important, c'est un moment très important dans l'histoire de l'Église, parce que en fait, il y avait les maux de l'Église de l'époque, notamment un clergé qui bien souvent ne résidait pas sur le lieu de son affectation, des prêtres de base qui pouvaient être paillards, incultes, ivrognes, mais un peu comme la population au milieu de laquelle ils étaient appelés à vivre, et puis le grand clergé âgés, bon, qui étaient essentiellement composés de gens qui avaient été placés là à cause de leur naissance. Donc on comprend bien la contestation des réformateurs sur le fait que, effectivement, ces prêtres-là, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au peuple de Dieu ?
Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on puisse réserver la sainteté aux prêtres.
Alors la sainteté n'a jamais été réservée aux prêtres, tout le monde y est appelé. Oui. Ce que la fête de la Toussaint rappelle.
Pour vous, la sainteté, ça commence par la douceur, la bienveillance ?
En fait, la sainteté s'exprime de façon extrêmement variée, mais il y a un point qui est commun, bien sûr, c'est la charité.
Mais la sainteté pour vous, c'est aussi la dent dure et la main ferme, en même temps que le regard bienveillant, on le verra dans un instant. Alors, le prêtre en fonction, il en est une qui est extrêmement périlleuse, c'est la fonction de confession, ainsi que le dit très bien ce dialogue dans le film de Melville, Léon Morin, prêtre, entre Jean-Paul Belmondo, et puis de l'autre côté de la grille du confessionnal, il y avait des confessionnaux et des grilles, il y en a encore parfois, Emmanuel Riva.
Depuis longtemps que vous n'êtes plus confessé.
Depuis ma première communion. Mais je ne suis pas en train de me confesser.
Je sais que c'est pas drôle de reconnaître ses fautes devant son prochain. Est-ce que vous mentez quelquefois ? Vous l'avez jamais volé ? Qu'est-ce que vous avez volé ? Ça vous arrive de vous mettre en colère ? Vous ne commettez pas de fautes contre la pureté ?
Je sais pas.
Est-ce que vous savez vous priver et vous gêner pour les autres ? Vous faites bien votre devoir d'État ? Est-ce que vous croyez que vous réalisez au maximum les capacités qui sont en vous ? Ça vous fera du bien, une pénitence. Ça vous fera un peu mal aux genoux. Là, vous ferez une prière à votre idée. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine patris, et fili, et spiritus sancti. Passio domini nostri Jesu Christi, merita beati, amicus, catum de sanctum, quia quid bonifices, et malicius, nervis, sint tibi, permissio, neo peccatum, malgratum, gratis, et premier, vivitis, esterne. Amen.
Enfin du latin, diront certains auditeurs. Alors, vous avez lu beaucoup de manuels à l'usage du clergé. Un prêtre, ça se confesse et ça doit se confesser comment ?
Oui, un prêtre peut avoir l'habitude de confesser les fidèles et peut lui-même ne pas savoir se confesser. Et dans les manuels de confession, on voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont pointées quand un prêtre en confesse un autre, parce que le respect envers un prêtre plus âgé, un sentiment de confraternité, un certain nombre de choses comme ça peuvent faire écran à une confession qui soit véritablement intégrale et sincère.
Avec une main ferme. À propos d'écran, une des autres fonctions, c'est la prédication. Et alors, comme vous avez la dent dure, vous expliquez que la prédication peut faire scandale si elle fait écran avec les Écritures, avec l'Ancien et le Nouveau Testament commentés.
C'est-à-dire que, en fait, la prédication doit être une valeur ajoutée. Le prêtre doit avoir une bonne nouvelle à annoncer à ses auditeurs. Et par exemple, en 1951, François Mauriac, parlant avec le philosophe Jean Guiton, lui disait que cela faisait plus de 60 ans qu'il écoutait des sermons dominicaux. Et il ajoutait « Avez-vous jamais entendu dans les prêches qu'on entend à l'église, avez-vous jamais entendu annoncer l'amour de Dieu ?»
Donc, enfin, pour lui, quand vous citez Mauriac, c'est de vous que vous parlez.
Ben, je me suis reconnue dans cette critique de Mauriac, sauf qu'aujourd'hui, à la prédication de la morale et de l'enfer, a succédé une prédication qui est souvent un petit peu répétitive sur la tendresse. On souhaiterait parfois des prédications qui soient plus centrées sur la Bible, déjà.
Et puis, comme disait votre ami Lacordaire, des prédicateurs qui mettent du sang sur les paroles. Le pire des scandales, ça va étonner nos auditeurs, peut-être c'est le manque de charité pour le prêtre.
Oui, parce que un prêtre qui ne serait que l'homme du sacré, mais qui ne manifesterait pas sa solitude envers tous les hommes qu'il rencontre, donc pas uniquement envers ses co-religionnaires, mais envers l'ensemble des hommes qu'il rencontre, serait un prêtre dont le témoignage serait faible. Et alors cette charité passait notamment, et aujourd'hui on l'a oublié, mais jusqu'au début du XXe siècle essentiellement, par une grande générosité, le désir d'aider les gens, y compris matériellement. Parce que l'avarice, pour une population dans laquelle il y avait des gens qui ne savaient pas ce qu'ils mangeraient le lendemain, l'avarice d'un prêtre, c'était une sorte de contre-témoignage absolu.
Et puis l'escroquerie sur les biens des pauvres, enfin on ne va pas entrer dans le détail, mais pour qui cherche des portraits hauts en couleur, vous aurez dans « Des prêtres et des scandales au cerf », votre livre, Anne Philibert, quelques jolies silhouettes de prêtres escrocs. En revanche, bon, l'intempérance, enfin je veux dire l'alcoolisme.
Alors en fait, sur l'alcoolisme, on sent de la part des populations une sorte de sympathie, de compassion, tant que ça ne fait pas un scandale tel que le prêtre, effectivement, est dans l'incapacité de célébrer les saints mystères à la messe.
Mais le père Duval qu'on va entendre, et qui a publié sur le tard « Je suis chanteur, prédicateur et alcoolique et jésuite », bah, il tenait debout quand même sur scène.
Ils ne sont plus les beaux jours de l'amitié. Tous mes amis ont quitté les cotonniers. Ils sont partis au pays du grand repos. J'entends leur douce voix chanter et au vieux Joe.
Bonsoir tout le monde. Je suis content de venir chanter pour vous. Monsieur le maire, merci pour le grand honneur que vous nous faites. Mes confrères dans le sacerdoce, mesdames, messieurs, mes sœurs. On a trois là-bas. Bonsoir mes sœurs. Je vous demanderai la permission de garder jusqu'à la fin ce ton un peu familier. Puis qu'on vient aussi à une soirée où on parle beaucoup de Jésus. Alors, on va se faire la voix, on va se regarder, se faire confiance. Et puis alors, vous me sourirez tous, y compris les sœurs et tout le monde. Hein. Oui. Ah, oui. Oui. Oui.
Oui. Bien gentil. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente avec le père Duval, la calotte chantante, lui le catéchumène et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris au genou de ma maîtresse chantant la mélopée d'une voix qui susurre, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Des prêtres et des scandales, donc là, Georges Brassens, dans les trompettes de la renommée, ajoute un ornement de plus à la couronne de dénigrement de ce malheureux père Duval. L'intempérance en matière sexuelle, Anne Philibert, tolérée ?
Non, l'intempérance en matière sexuelle, c'est un grand sujet d'inquiétude dans l'Église occidentale. Enfin, je veux dire par là que le célibat des prêtres a été posé dès le XIIe siècle comme une règle vraiment très très ferme. Dans l'Église d'Orient, cela fonctionne autrement, puisque le clergé de base a le droit de se marier, que seuls les évêques sont astreints au célibat. En fait, cette question fait forcément débat, puisque c'est une règle disciplinaire. Mais par ailleurs, ce célibat est conçu dans un sens, bien sûr, de chasteté, parce que ça n'aurait pas de sens que dans une paroisse, tous les fidèles soient célibataires, continents et ou mariés, et que le prêtre est sans se marier et la possibilité d'aller de femme en femme. Ça n'aurait pas de sens.
Je vais vous raconter l'histoire de l'oncle d'un ancien dominicain qui s'appelle Jean Kergrist. Jean Kergrist veut entrer dans les ordres, va voir son père, tout fier, un paysan de Bretagne. Tu vas tout de même pas faire comme ton oncle curé. Mais qu'a donc fait cet oncle curé qui a scandalisé le père de Jean Kergrist? Il allait peut-être de femme en femme. Ici, c'est un témoignage dans un documentaire signé justement par Jean Kergrist sur France Culture en 2009 d'une fille de ce prêtre.
Après ta naissance, il a continué à fréquenter la famille.
Ah oui, oui, il venait régulièrement à toutes les occasions, à des Noëls. Alors là, les langues se sont déliées. On me dit, oui, tout le monde le sait, tu lui ressembles.
Donc c'était un secret de famille qui était déjà bien partagé.
Oui.
Parce que apparemment, ta maman n'a pas été la seule. Parmi ses amours.
Oui. Hein? Oui, il y en a sûrement d'autres, oui. d'autres femmes, oui, puisque je suis allée voir un prêtre qui m'a raconté le crépage de chignon entre deux de ses amis.
Qui se disputaient les oui, faveurs.
Oui. Donc.
Et tu penses que c'était. Qu'il était mal à l'aise ou qu'il faisait le grand écart entre sa foi et puis sa vie privée. Moi, ce qui m'a toujours un peu intrigué, c'est que quand je suis allé le voir à Boulogne, moi-même j'étais séminariste, je me destinais aux ordres, et j'y allais pour conforter ma vocation auprès de mon oncle curé, et je pense que c'était ça que j'attendais de lui. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « ne reste pas avec ces obscurantistes ». Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait quand même pas à un moment tiré la conclusion que c'était pas sa place dans le clergé.
Il ne pouvait plus faire marche arrière.
Alors, réservons la question du grand écart auquel ce livre se prête pour tout à l'heure, Anne-Philibert. Mais le premier point, les témoins, il y en a beaucoup là. La fille naturelle, des amis, le prêtre qui dit « Oh bah oui, j'ai moi-même observé que... » Multiplication des témoins. Le scandale, c'est le témoin qui le fonde.
Oui, alors en fait, on considère que le scandale public, en quelque sorte, est plus grave puisqu'il y a plus de témoins. Mais il faut comprendre ceci dans la perspective que le scandale provoque une sorte de, enfin, est susceptible de provoquer une sorte de dommage spirituel pour ceux qui en sont les témoins. Donc, imaginez que on entende dans une région parler de trois prêtres pédophiles. Les témoins peuvent très hâtivement en tirer la conclusion que tous les prêtres sont pédophiles. Donc, ça peut avoir des conséquences très, très graves.
Et puis, dans l'esprit des témoins, se creuse un doute, s'instille une question.
Oui, alors là, en l'espèce, le cas de ce prêtre, bon, en fait, il faut bien quand même comprendre que le célibat prend du sens si il permet au prêtre d'avoir une véritable paternité spirituelle. Être célibataire pour être célibataire, en soi, ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas, comme dit le pape François, que le prêtre soit un vieux garçon ou que la religieuse soit une vieille fille. Il s'agit que chacun, à travers cette espèce de choix, en fait, développe d'autres virtualités. Et donc, et cette paternité ou cette maternité spirituelle.
Avec des fils et des filles, mais au sens que vous dites, dans la paroisse. Et là, il y a une paternité cachée. Qu'est-ce que vous avez appris dans toutes les archives que vous avez observées sur les paternités cachées, sur les recommandations que faisaient les évêques en matière de paternité, quand elle existait, il fallait faire quoi ?
Alors,
cacher l'enfant ?
Sur ce point, on a effectivement assisté à une très très grande évolution, qui est d'ailleurs est très positive. Il y a eu une longue période au cours de laquelle, en fait, la paternité d'un prêtre était une paternité impossible. Donc l'enfant posait problème, il s'agissait en quelque sorte de s'en débarrasser, soit d'empêcher qu'il naisse. Ça, ce sont des initiatives individuelles de prêtres totalement paniqués, comme j'en raconte dans le livre. Soit éloigner la mère et l'enfant, soit que la mère abandonne l'enfant après un accouchement clandestin.
Bon. Et l'évolution récente, c'est
Alors, l'évolution récente, justement, c'est depuis le pontificat de Benoît XVI, c'est cette idée que l'intérêt de l'enfant prime toute considération et qu'un homme qui est père doit, s'il est prêtre, renoncer à ses fonctions sacerdotales parce que, bien évidemment, l'enfant ne choisit pas dans quelle famille il arrive et l'enfant a droit à un père.
Alors, on en était resté au drôle de tonton curé sur cette question. Où en est-il, ce prêtre? Il peut pas faire autrement. Dans son cas, il avait en plus des possibilités financières personnelles, mais il peut y avoir la crainte de la misère. Le curé de campagne de Bernanos va se faire soigner, il va mourir, il consulte à Lille et il en profite pour aller visiter un camarade de séminaire défroqué et il voit l'abandon et la misère dans lesquels se trouve ce prêtre.
Oui, alors il y a aussi une difficulté en fait à faire face à cette grande parole « Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek ». Les gens avaient le sentiment que ce caractère sacerdotal était ineffaçable. Donc même un mauvais prêtre, à ses yeux bien souvent, et puis aux yeux de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques successifs, était d'abord un prêtre.
On ne peut juger que au moment où la vie est accomplie. Dernier témoignage, c'est celui du père Laval qui est mort il y a quelques années, à 90 ans passés. Étonnant personnage, très libre de propos. Ici, il témoigne dans les Nuits magnétiques de France Culture.
J'ai eu un coup de foudre, vraiment un coup, pour un séminariste yougoslave, très beau. Mais j'ai compris que ce n'était pas l'amitié que je souhaitais, mais son amour. Et il l'a compris, et nous avons décidé de ne pas nous parler, de nous fuir. Et ce fut pour moi un enfer, ce fut ma première mort en quelque sorte. Et me voilà 25 ans ordonné prêtre, les catéchismes, les patronages, les enterrements sous la pluie, les visites aux malades, la messe de 6 heures, les confessions, les sermons. Mais en même temps, comme toujours, je suis double. Je ne me sentais jamais à ma place. C'était peut-être ça ma place, de ne pas être à l'aise. Et en même temps, je n'ai jamais eu envie de quitter le Christ. Mais le sentiment de ma misère, dû à mon besoin de tendresse, m'a fait mieux comprendre la misère des autres et aussi la miséricorde du Christ. Et je ne suis pas un douanier à demander, montrez-moi vos papiers d'identité. Moi, je m'en fiche pas mal, qu'ils soient de droite ou de gauche, sexuels d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas mon intérêt. Et moi-même, je ne m'intéresse pas à savoir qui je suis. Je ne m'intéresse pas à savoir si je suis bien ou mal. Je vis selon les courants que je réanime par la prière et que je réanime par les rencontres que la vie m'apporte.
Et la place du père Laval n'était pas nécessairement à la place que les fidèles attendaient de lui.
Oui, alors il y a un épisode quand il est jeune vicaire à Reims sous l'occupation, c'est vers 1941 ou 1942. Il rend visite à François Mauriac, à la suite de quoi il est convoqué à l'évêché et Monseigneur Marmottin lui reproche pêle-mêle de fréquenter des garçons, de fréquenter des femmes, de s'habiller en civil, d'être surréaliste et, pire du pire, d'être allé voir François Mauriac.
Il faut dire que Laval était résistant pendant que Mgr Marmottin l'était moins. Alors, il a trouvé une solution, c'est les dominicains. C'est l'ordre que vous préférez, Anne-Philibert, et que vous fréquentez beaucoup. Mais parlons des prêtres diocésains, ce que Laval n'était plus et qui dépendent de l'évêque du diocèse. Qui les a ordonnés? Il ferait bien parfois, les évêques, de faire attention aux petits jeunes gens purs qu'ils ordonnent, non?
C'est-à-dire que, effectivement, avant le Concile de Vatican II, pour être admis au sous-diaconat, qui était l'étape de la prise d'engagement au célibat, il fallait en quelque sorte montrer patte blanche. Et dans certains cas, en fait, la froideur d'un séminariste envers les femmes n'était pas le gage que la suite de sa carrière serait de toute tranquillité, parce que en l'absence en quelque sorte d'un discernement approprié, en fait, l'intéressé pouvait très bien avoir des tendances pédophiles, être complètement refoulé, avoir des problèmes psychiatriques, etc. Il y a des choses qui sont apparues après.
C'est quoi un bon évêque? Alors, c'est quelqu'un qui sait ordonner des prêtres, qui n'accepte pas des maboules comme tel ou tel évêque qui a beaucoup de succès aujourd'hui dans son séminaire. Mais c'est pas un saint, nécessairement.
Alors, un bon évêque, il y a une définition qu'en a donnée saint François de Sales, donc au début du XVIIe siècle, que je trouve très appropriée. Il explique à son frère que les évêques doivent être comme ces grands abreuvoirs publics où tous, hommes et bêtes, viennent à puiser. Et en fait, cette conception de l'épiscopat est assez proche de la façon dont Mgr Riobé, qui était un évêque du XXe siècle, l'a pratiqué dans le diocèse d'Orléans. Cette idée, finalement, que l'évêque n'est pas seulement l'évêque des catholiques, mais c'est l'évêque de tous les hommes de son diocèse.
L'obéissance et la soumission à Rome, dites-vous, parce que vous avez la dent dure, sont parmi les vertus les plus exaltées par le catholicisme traditionnel, et l'évêque se targue d'obéir à Rome. 1917, code de droit canonique, et puis ensuite toutes sortes de textes d'ailleurs très discrets. Aux évêques est imposée par Rome la tâche d'être très vigilant en matière de pédophilie. Et c'est drôle, là ils obéissent pas toujours bien.
Alors ça, c'est un phénomène qui est difficile à expliquer, mais qui s'inscrit quand même dans une culture catholique, en fait dans une culture catholique aussi de la confiance, où un évêque peut penser vraiment que son prêtre va s'amender. Donc il y a cet aspect-là, et on peut évoquer par exemple cette phrase d'Isaïe sur le fait qu'il ne faut pas éteindre la mèche qui fume encore, ce genre de choses. Donc en fait, des prêtres qui sont de bonne volonté, mais qui après seront très faibles, ou des prêtres carrément manipulateurs, pervers, peuvent très bien faire croire à leur évêque que définitivement ils sont convertis, qu'ils ne referont plus, et puis continuer par la suite. C'est le problème de la culture catholique dans ce cas.
Dites-moi, l'évêque, il est aussi responsable, ça fait partie de sa charge, des archives qui consignent le passé du diocèse. Un mot sur les recherches que vous avez faites. Alors, je suis la biographe de la Cordère, je publie au CERF. Bon, et alors, vous avez eu bon accueil.
Alors, disons que j'ai notamment travaillé comme ça sur un corpus que j'avais défini d'environ 30 prêtres passés en justice pour des faits de pédophilie entre 1927 et 1933. Et ça concernait 24 évêchés. Et je n'ai pas eu de réponse dans 4 ou 5 évêchés. Donc, ce qui montre que, effectivement, ça a suscité beaucoup de méfiance. Et j'ai beaucoup regretté de ne pas être interrogée sur mon projet et sur mon propos. Voilà. Et d'autre part, dans certains cas, j'ai dû quand même plus préciser qui j'étais pour ôter un petit peu des préventions.
Mais bon, les archives diocésaines peuvent être fermées ou parfois hostiles. Il y a les ressources de l'Internet et puis... grâce soit rendue à Dieu pour la presse anticléricale, parce que les 31 cas là, que vous avez trouvés entre 27 et 33, vous avez trouvé ça dans un journal.
Alors c'est en fait Le Flambeau du Finistère, qui était un journal libre-penseur, bien conçu. Et c'est vrai que quand on le lit et qu'on vérifie la véracité de ces informations, on comprend que les anticléricaux n'étaient pas forcément des ennemis de l'Église quelque part, c'était peut-être des gens qui attendaient de l'Église qu'elle soit digne d'elle-même.
Et qu'elle aille chercher le mal là où il est. Dites-moi, vous avez...
Qu'elle aille plutôt l'affronter là où il est,
plutôt que le chercher. Oui, enfin bon, le chercher au sens bagarre, voilà. Anne Philibert, vous devez comprendre le mot, vous qui avez la dent dure.
J'ai la dent réaliste, elle n'est pas dure.
Et alors, avec tout ça, vous avez été nommé membre de la commission que le conseiller d'État Sauvé va présider sur toutes ces questions.
Alors non, j'avais fait un acte de candidature... quand j'ai appris que cette commission allait être constituée. Et en fait, compte tenu de considérations budgétaires et de considérations de pluridisciplinarité, le président Sauvé m'a répondu que ma candidature n'était pas retenue, mais je pense qu'il trouvera, bien sûr, ou qu'il a sans doute déjà trouvé, des grands historiens.
Des prêtres des scandales, c'est aux éditions du CERF. Merci à vous, Anne Philibert. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard et Ninka Negulesco, à la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Arnaud Caillet. Chez vous, Mathieu Bidard.
Oui, Jean, dans un instant, dans La Tête au Carré, on parle des alliances intimes entre les arbres et les champignons.
Rien de vénéneux.
Non.